va y aller tout de suite avec la chronique des apatrides anonymes. Et donc, c'est Mathieu qui est avec nous.
Bonjour, Karine.
Bonjour, Mathieu.
Ça va bien?
Ben oui, et toi?
Oui, ça va bien.
Alors, que se passe-t-il aujourd'hui?
Ah, ben écoute, j'ai plusieurs sujets à entretenir avec toi et avec l'auditoire. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a peut-être un peu moins, au Québec, au Canada, un petit peu moins d'annonces ou de débats, si on exclut d'abord le débat sur la charte des dites valeurs dites québécoises, ben ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais au niveau, c'est un peu plus tranquille. J'ai une première nouvelle un peu en Europe, une nouvelle un peu, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà entendu. Et après, j'allais faire un tour sur le site d'Immigration Canada pour voir un peu qu'est-ce qui se passait au niveau des annonces. Les médias n'en parlent pas depuis que ce n'est plus Jason Kenney qui était très médiatique, très activiste, très présent partout. C'est maintenant Chris Alexander, mais lui a décidé aussi de continuer la même politique et d'annoncer plein de choses. On va en parler donc dans quelques secondes. Juste revenir un peu en France, vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. C'est toujours un peu difficile de l'extérieur de voir à quel point c'est pire qu'avant, ou c'est plus difficile, ou c'est plus tendu. Mais c'est sûr que les attaques racistes, les débats haineux se multiplie depuis quelques semaines. Je vous avais parlé, il y a à ma dernière chronique, d'une ministre en Italie, celle qui s'occupe des immigrants, des réfugiés, qui se faisait régulièrement traiter de singe, de négresse et tout le kit parce qu'elle est d'origine congolaise et qu'elle fait des timidement certaines politiques pour aider un petit peu les réfugiés de la mer, entre autres. J'en avais parlé parce qu'elle avait reçu, entre autres, des bananes dans une réunion. Elle avait été traitée de tous les noms par les élus de la Ligue du Nord. Et en France, il y a une autre ministre qui est un poste plus important, ministre de la Justice, qui se fait aussi injurier parce qu'elle est d'origine antillaise. Il y a un journal d'extrême droite qui s'appelle Minute qui a publié sa une avec le titre « Maline comme un singe, Taubira retrouve la banane ». Taubira, c'est le nom de la ministre. Et ça faisait quand même référence à une insulte d'une candidate du Front National qui l'avait traité de guenon il y a quelques semaines. Donc, on est à ce niveau-là actuellement en Europe, en Italie, en Grèce, en France et dans d'autres pays aussi, en Angleterre aussi, ça va assez mal de ce côté-là. Pour montrer un peu le climat qui se passe, et tout ça un peu dans la foulée du débat pour le mariage pour tous et la montée du Front National et les problèmes économiques et tout ça. Donc, c'est assez propice à ce genre de choses-là. Donc, à surveiller quand même de ce qui se passe de ce côté-là. Ça, c'est un exemple d'une personne connue qui a été attaquée comme ça, mais il y a plein de choses qui se passent tous les jours, partout. Donc, peut-être ça peut nous inspirer aussi sur les dérives que peut avoir le débat ici aussi sur la charte. Donc, voilà pour les mesures annonces du fédéral. Ben, on sait que la fameuse politique en immigration dont on a beaucoup parlé ici, les apatrides à l'émission, a été adoptée il y a quelques mois. Et là, tranquillement, les effets s'en font sentir. Marie-Ève parlait il y a deux semaines du nombre drastique de demandes de réfugiés qui ont été acceptées. La baisse drastique du nombre de demandes de réfugiés qui ont été acceptées depuis à peu près un an, surtout depuis l'année 2013. Et récemment, en fouillant un peu, on apprend que la politique est assez claire. On va vers l'économique et non plus vers l'humanitaire. Donc, par exemple, le nombre d'admissions pour le programme d'aide familiale, plutôt aide familiale, c'est des femmes dont on parle. Donc, des femmes qui peuvent venir travailler chez quelqu'un. Donc, il devient un peu un esclave d'un particulier, d'un propriétaire chez lui pour s'occuper soit d'une personne âgée, une personne handicapée ou d'enfants. Ce programme-là a explosé. On accepte de plus en plus de femmes qui viennent un peu partout dans le monde, beaucoup des Philippines entre autres. Donc ça, c'est sûr que ça prend plus de place d'accepter des personnes qui sont dédiées au travail et qui sont un peu exploitées pendant quelques années que d'accepter des gens qui viennent seulement de faire une demande de réfugié, par exemple. Donc on dit qu'en 2014, 10 500 résidentes, aides familiales résidentes éventuellement vont être acceptées dans le cadre de ce programme-là. Et ça va être le plus gros nombre annuel depuis l'inauguration du programme en 93. Évidemment, le prétexte du fédéral, c'est de s'attaquer au fait qu'il y a un manque, supposément, dans ce domaine-là, parce que les Canadiens sur place ne veulent pas travailler, de faire ça. Donc, on justifie ça en faisant venir plus de femmes de peu partout. Donc, ça, c'est la première mesure qui a été annoncée. Ça, c'était fin octobre, donc qu'on allait accélérer le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme-là. Ensuite, on a appris que le programme de réunification des familles, qui avait été suspendu il y a un an, on avait stoppé ça sous prétexte qu'il y avait trop de gens en attente. On parlait de quasiment 8 ans d'attente pour avoir une réponse. Donc là, on a décidé qu'on va le repartir en janvier, mais avec des critères beaucoup plus serrés qui sont pour l'instant inconnus, et qu'on va mettre un plafond à 5 000 demandes par année de réunification des familles, ce qui est Puis cette année, il y en a eu 20 000 d'acceptés. Fait qu'on voit vraiment qu'on veut réduire aussi à ce niveau-là. Donc, tout ça pour favoriser les travailleurs qualifiés, les investisseurs immigrants, etc., etc. Donc, 20 000 qui a eu lieu en 2013. Et on essaie de, bon, finir la liste pour, ou en tout cas de la réduire pour en accepter d'ici la fin de l'année. Mais après ça, ça va vraiment stopper à 5 000. Donc, le programme, d'ailleurs, s'appelle maintenant Programme des parents et grands-parents. Avant, c'était le programme de réunification des familles, ce qui voulait dire plus de choses, plus clairement. Donc ça, c'est l'autre mesure là, donc qu'on a appris donc tout récemment. Peut-être aussi pour les gens qui ont suivi le dossier, il y avait eu il y a 3 ans l'ancien ministre Kenney qui avait décidé de réduire, ben pas de réduire, mais d'imposer un visa aux ressortissants de la République tchèque, de la Hongrie, du Mexique la même année. C'était à peu près, il y a 2 ans et demi, pour sans le dire officiellement, mais c'est parce que ces pays-là envoyaient supposément trop de demandeurs de statut de réfugié qui demandaient le statut l'asile pour des raisons politiques. Ou religieuses ou autres, ou même économiques. Et finalement, la République tchèque, pour la République tchèque, ça a été levé, donc il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, cette obligation-là d'avoir un visa. Donc, entre les lignes, ce qu'on nous dit, sans le dire, évidemment, c'est toujours dans les communiqués, la langue de bois, mais que le Canada est heureux de lever l'obligation de visa pour les citoyens tchèques et que ça témoigne de la relation solide réunissant le Canada et la République tchèque et ça renforce l'engagement du gouvernement à faciliter les échanges commerciaux et les déplacements légitimes. Donc, évidemment, quand on avait imposé cette mesure-là il y a 2 ans et demi, ça visait les Roms, évidemment, qui faisaient trop de demandes au Canada. Et comme on disait que la République tchèque était une grande démocratie, donc il n'y a pas de raison que des gens qui aient qui évoquent des violations de leurs droits politiques pour faire une demande ici. Mais évidemment, avec les nouvelles politiques qu'il y a eu, le visa et toutes les nouvelles politiques, les pays désignés, la restriction des demandes de statut, c'est sûr qu'il y a moins de monde qui vient de République tchèque, comme de d'autres pays, faire des demandes ici. Il y a même eu des pubs que le fédéral a payé dans ces pays-là pour dire « Ne venez pas au Canada, c'est pas vrai que c'est facile de devenir résident permanent, c'est pas vrai que c'est l'Eldorado que vous pensez. » Donc, on a mis le paquet vraiment et là, on constate qu'il y a moins de demandes, fait qu'on lève l'histoire du visa, donc une technique assez connue. Et on souligne aussi que pour le bon dossier de conduite de la République tchèque, qui comprend entre autres que le taux d'infraction, le nombre de demandes d'asile présentées est plus réglementaire et a diminué, l'intégrité des sites de voyage sont mieux, les enjeux liés à la sécurité et à la gestion de la frontière sont mieux en République tchèque, et les droits de la personne et les relations bilatérales se sont améliorés aussi. Donc, on voit vraiment le setup. On prépare ça pour le Mexique, j'imagine, éventuellement d'ici quelques années, et d'autres pays aussi qui ont eu ce genre de visa-là. Mais on précise aussi que les gens qui demandent quand même une demande en venant de la République tchèque, leurs demandes seront traitées plus rapidement et étant donné que c'est un pays désigné, ceux dont la demande fait l'objet d'un refus seront renvoyés automatiquement sans droit d'appel. C'est la nouvelle politique donc qui date de la loi de l'année passée. Donc ça, c'est un exemple qui, bon, non, personne ne parle, mais qui montre un peu toutes les conséquences de cette nouvelle loi-là. Et comme je vous dis, le nouveau ministre est plus discret, mais fait quand même prend des décisions quand même avec le gouvernement conservateur. Donc là-dessus, on voit vraiment qu'est-ce qu'il y en est. J'ai 2-3 autres petits sujets à parler, toujours un peu dans la même lignée. Ben, dans le cadre des mesures d'urgence pour aider le peuple philippin à se relever du typhon Haiyan, évidemment, à chaque fois, bon, le gouvernement canadien, comme les autres gouvernements, vont accepter quelques réfugiés supplémentaires parce qu'il y a une catastrophe. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mal pris, qui n'ont plus de maison et tout et tout. Et là, bon, comme d'habitude, le fédéral a annoncé qu'il s'occuperait en priorité des demandes qui étaient déjà en cours de la part de gens qui sont là-bas. Mais pour que ça soit accéléré, il faut que les gens soient touchés personnellement et de manière importante par le typhon. Je ne sais pas comment ça va être prouvé exactement, mais ça, c'est ce qui est souligné dans la demande, dans le communiqué, dans le texte officiel qui vise ces gens-là. Pour les nouvelles demandes de gens qui sont pris là-bas, qui n'avaient pas commencé leur demande au Canada, ils doivent eux aussi prouver qu'ils sont touchés de manière importante pour pouvoir faire une demande accéléré, on s'entend. Et pour ce qui est les familles qui sont, par exemple, une partie de la famille est ici, l'autre est là-bas, c'est la même chose. Donc, en bout de ligne, on risque d'accueillir peut-être quelques dizaines de personnes. Pour Haïti, il y avait eu ce même genre de promesse, on avait accepté très peu de gens. Pour la Syrie, depuis en 2 ans et demi de guerre, on a accepté à peu près 200 personnes. Donc, on s'entend qu'on n'ouvre pas les valves pour accepter les gens. Et ça permet de montrer quand même qu'on a une certaine conscience sociale, où on est un peu humanitaire là-dedans, en accueillant des gens qui sont vraiment touchés de plein fouet par des catastrophes. Donc, il y a ça, je voulais vous parler aussi, puis peut-être aussi pour montrer toujours aussi où on se situe actuellement au niveau des des politiques. Peut-être parler brièvement d'Hassan Diab. C'est un autre sujet un peu parallèle. Hassan Diab, dont la France demande l'extradition pour l'histoire d'un attentat à Paris dans les années 80, fait par le FPLP à l'époque. Il y a eu un reportage assez long et complet sur l'attentat à Enquête il y a une semaine et demie à Radio-Canada. Et ce qui est dommage dans ce reportage-là, c'est qu'ils n'ont pas parlé du tout du fait que M. Hassan Diab est un peu pris dans un processus un peu kafkaïen, c'est-à-dire qu'il est... les Français ont décidé que c'était lui le principal coupable sur à peu près aucune preuve, puis il y a une partie de la preuve qui est secrète. Et dans le reportage qu'il y a eu, qui était assez long, on parlait longtemps de ce qui est arrivé là-bas, puis du processus d'enquête qui a pris toutes sortes de pistes, de tournures et qui a abouti à peu près à rien depuis depuis 33 ans finalement. Mais finalement, on ne parle pas du fait que M. Hassan Diab, un premier juge en première cour d'appel, en première instance en Ontario, a ordonné l'extradition. Il passait en appel la semaine passée, les 4 et 5 novembre. Il y a deux semaines. Et là, la réponse va arriver dans quelques semaines, quelques mois. Mais ce que j'ai compris en relisant le dossier, c'est que la demande d'extradition française est basée sur une partie de la preuve qui est secrète. Donc, M. Diab et ses avocats n'ont pas accès à ça. Mais sur le fait que sa calligraphie, donc son écriture, qu'ils ont trouvé dans des documents, correspondrait avec une note écrite dans un hôtel en 80 à Paris. Donc, ce serait la même personne qui aurait écrit cette note-là. C'est la seule preuve officielle, pour l'accuser. Au-delà du fait qu'il soit coupable ou pas, c'est plus le processus qui fait que la France veut absolument le faire extrader pour l'interroger. Il l'accuse pas de rien officiellement. Lui, il leur dit qu'il est prêt à les rencontrer ici pour répondre à leurs questions. Il est prêt à passer un détecteur de mensonges ici, mais il veut pas se retrouver en France parce qu'il sait très bien qu'il s'en sortira jamais dans le processus judiciaire là-bas. Donc, en attendant, il est pris avec toutes sortes de conditions. Il a un bracelet GPS aussi. Bon, tout le kit habituel. Et il est dans un processus qui risque de durer des années. Il a perdu son emploi et tout. Donc, vraiment, le processus d'extradition qui, dans la tête de bien des gens, protège beaucoup les droits des gens quand même. Mais finalement, on voit que sur ces simples bases de preuves très, très faibles et seulement sur une demande d'information, donc d'entrevue, on est prêt à extrader des gens qui sont citoyens canadiens. Si les gens veulent plus d'informations, c'est le justiceforhassandiab.org. Hassan Diab, donc, qui est à Ottawa, qui est un résident d'Ottawa. Donc, si les gens veulent avoir plus d'infos sur tout ce qui s'est passé, sur ce qui s'en vient, avoir un peu de contenu là-dessus, les gens peuvent le faire sans problème. Est-ce que j'ai le temps pour un dernier petit truc?
On peut y aller. Ben oui, vas-y.
Oui, tu me le permets?
Ben, je te le permets.
Merci. Juste dire peut-être qu'il y a une manifestation pour une dame dont avait parlé Marie-Ève il y a deux semaines, Madame Awan, qui est réfugiée dans une église à Montréal, qui est pakistanaise donc d'origine, qui a eu un avis de déportation en août dernier, qui le refuse pour des raisons de sécurité et de santé. Donc, elle est dans une église montréalaise depuis août 2013, dans une forme de sanctuaire qu'on appelle. Et il y a une manifestation pour l'appuyer pour ses 100 jours de sanctuaire. Ça se passe le 28 novembre, donc jeudi de la semaine prochaine, à midi devant les bureaux d'Immigration Canada au 1010 Saint-Antoine à Montréal. Et donc, parce qu'elle est dans un sanctuaire, mais l'agence de services frontaliers est toujours là en train de surveiller, essaie de rentrer. En tout cas, c'est un peu le bordel quand même, c'est vraiment pas facile. Et donc, quand même, c'est un geste courageux de se réfugier dans une église quand on sait toute la pression qui est faite par l'agence et par le ministère. Donc, pour information, soutien famille et awan.org. Awan, c'est AWAN. Manifestation de 28 novembre, donc devant les bureaux d'Immigration Canada pour faire le suivi sur ces dossiers malheureux.
Ben, merci beaucoup, Mathieu.
Merci, Karine.